Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
17h04 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Mathieu Noël pour la suite de l'équipe Sauvage.
16h-18h, l'équipe Sauvage.
Mathieu Noël.
Les jours se suivent et se ressemblent, mais notre motivation à vous divertir reste intacte. Avec Eva, la perspective d'un déconfinement le 11 mai ne nous fait pas peur, car même confinés, nous avons su garder le même dynamisme, la même fraîcheur qui a toujours été la nôtre. D'ailleurs, si vous pouviez nous entendre hors antenne, lorsqu'on se dit bonjour avant l'émission, vous pourriez mesurer le degré de ce dynamisme et de cette fraîcheur.
Ça va ?
Ouais.
Qu'est-ce que t'as fait, week-end ?
Oh, j'ai bouffé.
L'un passe ses journées à bouffer, l'autre à mater la télé. Décidément, Eva, on forme un sacré duo.
C'est vraiment ça.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on garde sur les écrans ce soir, Eva.
Oui, une comédie et une série dont la nouvelle saison arrive sur OCS. Vous allez voir, les deux programmes sont très très bien.
Allez, champ programme, mais avant de se détendre devant la télé, ça va castagner. Deux nouveaux journalistes en compétition nous ont rejoints, virtuellement bien sûr. Leur objectif, terrasser l'autre pour s'emparer de la couronne de chroniqueur du jour. Alliance, trahison, intimidation physique, tout est permis. Le premier est un scientifique tendance poète. Directeur de la revue Ciel et Espace, Alain Siroux adore mener toutes sortes d'expériences. Jouer avec un cube, mesurer le volume sonore d'une forêt, compter les étoiles dans le ciel, ou encore faire l'amour avec Madame Siroux dans les endroits les plus insolites.
On l'a fait en 2012, oui. Dans un stade.
Oui, Alain, merci. Bonjour Alain Siroux.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
On connaît tous, Alain, la fameuse phrase « Houston, on a un problème », mais que s'est-il vraiment passé à bord de la mission Apollo 13 ? C'est ce que vous nous racontez cet après-midi.
Oui, parce que ça fait exactement 50 ans, un demi-siècle, que 1 milliard de téléspectateurs suivent en direct, pratiquement, ce qu'on appelle le drame d'Apollo 13, ou comment 3 astronautes en direction de la Lune sont en perdition alors que leur vaisseau vient en grande partie d'exploser.
À l'autre bout du téléphone, Alain, comme on disait en 1967 quand on vous l'a installé, un garçon dont la vie est particulièrement chamboulée par la décision d'Emmanuel Macron de prolonger encore d'un mois le confinement. En effet, pendant un mois, Nicolas Carreau, l'expert littérature d'Europe 1, va être contraint de rester le cul vissé sur son Chesterfield, à lire un bouquin par jour sans jamais sortir de chez lui, si ce n'est pour acheter du pain, alors qu'en temps normal, bah, il aurait fait strictement la même chose. Bonjour Nicolas Carreau.
Exactement.
Vous qui êtes toujours perdu dans vos livres, vous avez noté, Nicolas, qu'il y avait un confinement. Ça ne vous a pas échappé. Hein. Je ne sais pas si
mais
ça change quelque chose à votre vie.
On m'a dit ça, effectivement.
Business as usual pour vous. Et aujourd'hui, Nicolas, vous nous parlez d'un chef-d'œuvre de la littérature française qu'on a tous lu à l'école et qu'on gagnerait à relire, Le Grand Maulne.
Le Grand Maulne qui est réédité à la Pléiade, et c'est ça ce qui est fou avec ces mythes de la littérature, c'est que ça reste très très moderne, même un siècle plus tard. Et puis on parlera aussi de la vie de l'auteur Alain Fournier.
Et oui, trop courte vie.
Oui.
Merci Nicolas. Alors, les derniers secrets du Grand Maulne, ou bien la mission Apollo 13 racontée par Alain Siroux, quelle chronique vous passionnera le plus ? Nous le saurons juste avant 18h. En attendant, c'est l'heure de prendre des nouvelles de votre confinement. Comment ça se passe en ce 29e jour et donc à mi-parcours, hein, normalement à mi-parcours, vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail d'Eva Rock, eva.rock@europe1.fr.
Durant cette période de confinement, j'ai l'impression d'être une sardine dans sa boîte de conserve. Je ne peux pas sortir, profiter du beau temps et je suis obligée d'être cloîtrée entre 4 murs. Je ne peux plus voir mes amis. D'ailleurs, moi qui ne pensais jamais dire ça un jour, j'ai tellement envie de retourner au collège, voir mes amis. Et j'ai aussi l'impression de vivre une aventure Koh-Lanta aux îles Fidji. Car je commence à rationner la crème de marron, les bonbons, le chocolat, dans l'espoir qu'il me dure jusqu'à la fin du confinement. Et dès que j'ai l'opportunité d'en manger ne serait-ce qu'un bout, je suis comme les aventuriers des tribus jaunes et rouges quand ils découvrent du manioc. Sinon, j'espère que ce confinement s'arrêtera bientôt et que je pourrai enfin retourner au collège.
C'était Eléa. Alors Eléa, elle fait partie de la classe de 5e qui nous envoie des petits messages du collège Jean Massé à Villeurbanne. Voilà. C'est une de ses élèves et vraiment, il est génial son message.
Alors, oui, deux informations, c'est que le confinement stimule l'imagination.
Exactement.
Des jeunes. Le problème, c'est que leurs sources d'inspiration sont donc Denis Brognard et Patrick Sébastien.
Mais c'est ce que je retiens. Alors, je vous propose d'écouter un deuxième message, un message dans lequel vous allez pouvoir entendre Fabrice, Tatiana et Stanislas.
L'Inde, le Mexique, le Costa Rica, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Namibie. Voilà mes possibles destinations pour cet été. Ce sera peut-être le Cantal, mais Eva, je vous assure, rêver à tout cela, ça fait un bien fou.
Mais mon chéri, t'as pété ?
Oui, pardon maman. Mais au moins, si tu le sens, on sait que t'as pas le coronavirus.
C'est malin.
Salut l'équipe. Hier, ma mère est arrivée en me disant « Tiens, regarde, Mathieu Noël s'est rasé. » Et elle montre une photo et je dis « Bah, c'est super maman ça. » Et elle m'a dit « Bah, tu fais la même chose. » Je dis « Bah non, fais pas. » Mais j'ai très vite compris que c'était la troisième semaine de confinement et dans son regard, j'ai compris qu'il fallait plutôt être coopératif. Je ressemble désormais à un enfant de 8 ans. Merci Mathieu.
Donc vous avez bien entendu Stanislas, Tatiana et ses enfants pour cette petite blague qui a été vraiment une vraie blague. Ils l'ont rejouée pour nous. Et Fabrice, qui est journaliste et romancier, qui a sorti récemment Les âmes frères chez Stock, que je vous recommande également. Merci pour tous ces messages. Évidemment, vous pouvez continuer à nous en envoyer sur mon adresse mail eva.rock@europe1.fr. Voilà Mathieu.
Oui, merci à tous. Et si vous voulez partager avec nous votre expérience du confinement, un seul mail, vous l'aurez compris, eva.rock@europe1.fr. Si vous souhaitez plus pernicieusement partager des photos d'Eva Rock au collège, lycée, à l'IEP d'Aix-en-Provence ou sur les parquets du Saint-Laurent-du-Var Basket Club, là c'est direct sur mon Insta, Mathieu Noël, très officiel. L'équipe est sauvage continue.
Europe 1.
À suivre, chacune de ces chroniques est un événement. Il n'a pas son pareil pour donner envie à l'auditeur de rester à l'écoute d'Europe 1. Son secret, un sens du teasing exceptionnel.
On se déconfine un peu dans un instant pour visiter la bibliothèque du chanteur Vincent Delerme avec notamment la recette de l'omelette aux nouilles. Ça vaut le coup.
Oui, non, alors aujourd'hui, Nicolas Carré vous parle d'un roman culte plutôt, Le Grand Maulne. Ça vaut encore plus le coup de rester. En attendant, voici Love Shack d'un groupe qui porte le nom d'une boisson chère à Eva Rock. B52 sur Europe.
Mais non, pas B52, B52.
Louder, baby. Bang, bang, bang on the door, baby. I
Love Shack, c'était B52, ou plutôt, pour les aficionados, B52 sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Ils sont devenus en l'espace d'un mois nos meilleurs amis, les livres. Parmi eux, des chefs-d'œuvre lus trop tôt dans l'adolescence ou jamais lus tout court, nous tendent les bras en ces temps de confinement. Et pour Nicolas Caro, notre monsieur livre, c'est le moment ou jamais, à l'occasion de sa parution à la Pléiade, de découvrir ou redécouvrir un roman culte, Eva, d'un auteur d'autant plus culte lui aussi qu'il n'a pas eu le temps d'écrire d'autres romans. La faute à la guerre de 14, je veux bien sûr, Eva, parler du grand Maulne.
Rachmaninoff, moi j'adore.
Oh, oui, alors tant mieux, c'est plutôt d'Alain Fournier que vous nous parlez cet après-midi, mon cher Nicolas Caro.
C'est offensant ce que vous venez de faire, parce que Nicolas va vous dire pourquoi c'est offensant.
Pourquoi vous avez... c'est votre livre de chevet, c'est ça?
Non, mais c'est un livre qui a marqué vraiment mon enfance, ouais. Tout à fait.
Moi aussi. Bon, bah faites ma chronique, les enfants.
Non, allez-y, Nicolas, allez-y, pardon.
Nicolas, on vous écoute, on est tout, oui.
Allez-y.
Là, effectivement, le grand Maulne, ça sent un peu la poussière, comme ça, mais à tort. Alain Fournier, il y a un trait d'union entre Alain et Fournier, parce que c'est un pseudonyme, au passage. Son vrai nom, c'est Henri Alban Fournier. Quand on dit ce titre, la moitié des auditeurs vont penser à l'école, et c'est vrai, oui, que ça fait partie de ces monuments, ouais, incontournables, un peu intimidants à force d'être mythifiés.
Oui, mais à tort, donc, d'après vous, Nicolas.
À tort, complètement, parce que c'est un roman de jeunesse, c'est un roman vivifiant, un roman sur la liberté. Alors forcément, quand on vous en impose la lecture à l'école, il y a comme une contradiction. L'histoire, c'est un adolescent qui raconte, François Sorel, le fils de l'instituteur dans un petit village du Cher, Sainte-Agathe. Un jour, arrive un jeune homme un peu plus vieux, c'est Augustin Maulne, que l'on surnomme le Grand Maulne. C'est une sorte de grand frère pour François. Ce Grand Maulne est un peu rebelle à l'autorité, et un jour, il emprunte une petite voiture à cheval, et il se perd dans la région. Son escapade va durer 3 jours, et pendant ces 3 jours, il tombe par hasard sur un vieux domaine, une sorte de vieux manoir en ruine, mais beaucoup de gens sont là, déguisés très très bizarrement. Il comprend que c'est un mariage, on attend les mariés, et pendant ce temps-là, on s'amuse. Il décide de s'incruster un peu. Il rencontre à cette occasion une jeune fille magnifique, mais très mystérieuse. Coup de foudre, je vous passe les détails, mais on apprend bientôt que le mariage n'aura pas lieu. La fiancée s'est enfuie. Maulne rentre à Sainte-Agathe, mais il n'a qu'un seul but, maintenant, retrouver ce domaine perdu et bien sûr la jeune fille dont il ne connaît que le nom.
C'est donc une histoire d'amour.
Mais pas seulement, c'est une histoire d'amitié aussi et d'aventure. François, le narrateur, essaye d'aider Maulne à retrouver le domaine perdu. Et bon, il y a plein de rebondissements qui sont à venir. Alors, à l'école, on vous expliquerait que tout le livre est plein de symboles, on peut faire 1000 analyses, sans doute, mais c'est avant tout un roman pur, c'est-à-dire une bonne histoire avec un suspense servi par un style très simple. C'est une plongée aussi dans la campagne et dans la vie du tout début du XXe siècle.
Dans quelle année a-t-il été publié? Parce que c'est important.
Très important. 1913, Alain Fournier l'a publié à 27 ans, premier roman. Énorme succès, il frôle le Goncourt à une voix près, mais Alain Fournier meurt au combat en 1914. C'est sans doute aussi ce qui a contribué au mythe, c'est un destin d'une tristesse sans nom, mais il a laissé ça, et un siècle plus tard, on le lit encore, ça fait partie à chaque fois des classements des plus grands livres à lire dans le monde, et franchement, allez-y, en plus dans la version Pléiade, comme toujours, il y a plein de bonus, des lettres, des documents d'Alain Fournier. Relire le Grand Maulne, c'est retrouver un vieux copain,
ah,
et puis j'aime bien ce petit volume de la Pléiade qui renferme un seul roman. Je crois d'ailleurs qu'il me semble que c'est le seul, sauf erreur. C'est très compact, c'est très beau. Et puis il y a un chapitre inédit aussi dans
ah
le
bon
livre.
Ah, c'est génial.
Un chapitre inédit
qui ne modifie pas l'intrigue,
oui, oui,
mais qui creuse un peu plus la psychologie de Maulne.
C'est bizarre parce
que ça n'avait jamais été édité.
Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais parfois il y a des romans qui vous marquent, non pas par l'histoire, parce que par exemple, je pense que j'aurais été incapable de redire l'histoire vraiment de façon précise, mais parce qu'il y a une ambiance, il y a une scène qui vous a, ouais, une sensation, une scène qui vous a particulièrement marqué. Et moi, je trouve que le Grand Maulne, c'est ça en fait, non vous avez...
ouais.
Je dis des
exactement,
bêtises.
Et ça s'intègre en vous, en fait.
Ouais.
Ça reste en vous pour toujours, cette impression, même si l'histoire, les noms et tout,
ouais,
ça, vous avez un peu oublié. Tout ça reste en vous. C'est ça un grand livre.
Et vous disiez aussi que ça pouvait évoquer un souvenir scolaire, parce que c'est vrai qu'on a tous dû le lire à l'école.
Ouais.
Mais moi, au contraire, je crois que ça a même été un déclic pour moi sur la littérature. Genre, ce livre, c'était tellement beau que justement, c'était,
ouais,
tellement poétique que ça m'a donné envie de lire d'autres livres, en fait, le Grand Maulne à l'école.
Ah non, non, bien sûr. C'est très, très bien de le lire à l'école.
À quel âge on doit lire le Grand Maulne? 12 ans, 13 ans?
Ouais, 12 ans, c'est bien,
là,
je trouve.
À partir de 12 ans, de 12 ans, si vous êtes en confinement, le Grand Maulne, voilà une très belle idée. Merci infiniment, Nicolas Caro. Formidable chronique. Qui n'en a pas douté, a donné envie à Eva de s'inscrire enfin à la bibliothèque d'Europe 1.
Ça fait 3 ans que je suis là, c'est pas maintenant que je vais demander comment ça fonctionne.
Oh, mais si, mais si, c'est jamais trop tard.
Europe 1.
Restez bien avec nous, car autant question littérature, Eva est aussi calée que Nabila.
Non mais Mathieu Noël quoi. Allô.
C'est QFD. Autant question télé et écran, elle touche sa bille, rien ne lui échappe, sa sélection à suivre.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage confinée et vous le savez, c'est reparti pour un tour jusqu'au 11 mai.
Oula. Ça va être long si vous ne mettez que des musiques comme ça.
4 semaines de bonheur en perspective. 4 semaines qu'il va bien falloir meubler. Alors moi, je veux bien qu'on dise, oh la télé, faut pas en abuser, pas trop d'écran. Ok, alors vous allez faire quoi ce soir, hein? Vous allez jouer au ni oui ni non?
Ok, t'aimes bien lire, hein, toi?
Affirmativement.
Mais le dernier livre que t'as lu, c'était un polar?
C'est tout. Bah non.
Non, bien sûr, vous allez regarder la télé comme tout le monde, mais tâchez de ne pas regarder n'importe quoi pour ça. Eva Rock, vous êtes là pour nous guider.
Oui, alors au programme ce soir, du rire et du sexe. Est-ce que ça vous va, Mathieu, a priori?
Alors attention, pas. Alors moi je veux bien l'un après l'autre, mais il faut déjà pas se tromper d'ordre et
exactement.
Surtout pas en même temps, alors, sinon l'un nuit à l'autre.
Et voilà, et ben justement on commence par le rire. Direction M6, pour la rediffusion d'une série en deux parties qui m'avait fait hurler de rire l'été dernier. Ça s'appelle Péplum, la folle histoire du mariage de Cléopâtre.
Ah ouais, c'est drôle.
Alors on est dans des décors grandioses et dans ces décors évolue l'empereur Maximus, franchement pas fut-fut, hein, on va le dire. Il est flanqué d'une cohorte de sénateurs flatteurs et de son conseiller qui lui est très malin, il s'appelle Faustus. Et Faustus, il est vraiment au bout du rouleau, il rêve que d'une chose, c'est partir cultiver ses oliviers. Une liberté à laquelle il pourra prétendre le jour où il va parvenir à marier l'empereur à Cléopâtre IX. Alors Cléopâtre IX, c'est une reine d'Égypte qui accepte l'idée de cette union, mais qui est très très exigeante quant à la cérémonie. Les Romains, à la préparation des noces, en sont déjà épuisés.
J'ai parcouru plus de 1000 lieues portées par des dizaines d'esclaves. J'ai apporté avec moi 100 000 ou bien même 200 000 livres de blé. J'ai pas les chiffres exacts. J'ai traversé les déserts, les dangers, les mystères, les forêts. Et toi, toi, tu me dis qu'il n'y a pas de pachyderme?
Non, il n'y a pas de pachyderme.
Si!
C'est pas facile.
Putain, tu sais qu'elle me rappelle quand elle fait ça. Je veux ça, je veux ça. Tu sais qu'elle me rappelle?
Ma femme.
Ta femme. Oh là, la même, c'est la même. Donc t'as la même au boulot et à la maison.
Ah non, moi la mienne, j'ai vendue.
Ah ouais.
Et je me suis racheté une. Et là, maintenant, je me régale.
Putain, t'as la belle vie.
Je t'offre un verre?
Non, je peux pas, faut que je trouve des tigres.
Bah, tu m'as dit que t'en
avais. Mais j'ai pas de tigres, enfin, je les stocke où? C'est des chiens que j'ai peints, s'il pleut, on est baisés.
C'est très bien écrit, c'est très bien joué.
C'est très bien écrit, très bien joué, exactement. Deux épisodes de 52 minutes qui vous attendent ce soir avec des dialogues savoureux, portés par d'excellents comédiens. Vous venez d'entendre Baptiste Le Caplain et Philippe Vieux qui sont face à Nadia Rose dans le rôle de Cléopâtre, dont je suis absolument fan. L'empereur est incarné avec délice par Jonathan Lambert. C'est Michel Larocque qui joue sa maman. Elise Moon se glisse dans la peau d'un sénateur flagorneur et manipulateur. Et si vous regardez bien, mais il faut vraiment très très bien regarder, vous apercevrez même dans une scène de banquet un certain François Baroin. Voilà, à la réalisation de cette mini-série, Maurice Barthélémy, un des Robins des Bois. Tout ça, ça forme un cocktail parfait pour une soirée réussie en famille, sans prise de tête et avec beaucoup de sourires. C'est sur M6 à partir de 21h. Voilà.
Vous savez combien j'aime rire, Eva.
Ouais.
Vous savez aussi mon autre passion. Vous nous aviez promis du sexe.
Mais exactement.
Alors, où est-il?
Il est là, avec une série dont la saison 4 vient de débuter sur OCS. Ça s'appelle Insecure. C'est le quotidien d'Issa. C'est une jeune afro-américaine. Elle a environ 30 ans. Elle se pose beaucoup de questions sur sa vie. Alors sa vie, c'est son boulot et ses mecs. Des interrogations existentielles qu'elle adore mettre en musique. Son truc à elle, en fait, c'est de rapper devant son miroir et parfois de participer à une scène ouverte pour faire entendre sa voix. Alors pour tout vous dire, la décence m'interdit absolument de vous traduire la chanson en question parce que parfois, voire très souvent, il est question de sexe dans cette série. Les personnages dont Issa et ses copines en parlent très facilement, très crûment, et ne font pas qu'en parler d'ailleurs, vous le verrez. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vous la recommande particulièrement, cette série. Elle est intéressante aussi parce qu'elle raconte des États-Unis et de la communauté afro-américaine. Il faut absolument oublier le Los Angeles bling bling. Insecure se déroule vraiment dans des quartiers populaires et Issa, elle est en perpétuelle opposition avec les Blancs. Alors écoutez cet échange en version française, mais ça vous donnera un aperçu de la teneur politique de la série.
Ces Blancs ont tenu une réunion secrète et ils se sont envoyés des messages entre Blancs. J'ai fait une petite erreur pendant ma présentation et ils ont perdu toute confiance en moi. Maintenant, je suis la blague de service qui a merdé. Les Blancs avec qui je travaille font tous les jours des tas de conneries. Ils n'ont rien dit à Caleb quand il a fait faire aux gosses ses marionnettes racistes. Où sont les emails? J'ai rien su dans ma boîte mail.
Est-ce que tu en as parlé à Johan?
Non. Après, je vais paraître trop sensible. Putain, c'est vraiment pas juste.
Alors vraiment, je vous la conseille en VO, hein, évidemment. Et puis, ne faites pas comme moi, ne regardez pas les trois saisons dans le même week-end. Il faut regarder tranquillement ces épisodes de 30 minutes, parce que sinon vous allez avoir une sensation de répétition, ce qui n'est pas le cas en fait, parce qu'elle est vraiment très bien faite. Je suis certaine que vous allez adorer le personnage d'Issa, c'est une femme très attachante comme on dit, et la BO elle est excellente, vraiment c'est à voir sur OCS.
Attachante, un mot inventé pour vous, Eva, et qui donc s'accorde bien avec ce personnage. On termine évidemment avec le mix
du
jour.
Exactement, avec Sébastien Bordenave, on vous a déniché Denis Brognard qui partage sa playlist, Olivier de Benoît qui découvre une nouvelle pièce chez lui, et Ben Oncle Saul qui chante dans son salon, mais tendez bien l'oreille, il y a son bébé qui pose aussi sa voix. When I feel pain, I always think about you to be strong again. I can hear you telling me, stop worrying in vain. You know I'm falling.
Papa, vu qu'on est en confinement, je voulais te montrer un truc hyper important.
C'est pas dangereux ?
Viens, la cuisine.
Ah, c'est ça ? Ta mère m'en avait parlé, mais je voyais pas ça aussi grand. Waouh ! Ça, c'est frigidaire, ça, je sais. C'est là où on met les bières.
Alors, pour aller faire ses courses, en ce moment, il faut que ça aille vite. Il faut avoir un peu, j'ai envie de vous dire, le swing, il faut avoir le rythme. Donc là, j'ai envie de vous dire, un autre artiste proche de George Benson, ils ont fait des concerts ensemble souvent, je l'adore aussi, c'est Al Jarreau avec Morning.
Et voilà, Al Jarreau pour aller faire ses courses. Grâce à Denis Brognard, c'est pas mal. C'est un bon conseil, je trouve.
Mais personne n'est éliminé alors.
Non, personne n'est éliminé.
Il n'a pas éteint la torche,
non,
c'est
non,
bon.
Non, non, tout va bien.
Il est sympa en ce moment. Il faut se montrer sympa par les temps qui courent. Merci Eva Rock pour votre mix avec Sébastien Bordenave et vos choix télé pour ce soir.
Europe 1.
À suivre, les amis, que s'est-il vraiment passé à bord d'Apollo 13 ? Le film avec Tom Hanks, c'était pas mal. La chronique avec Alain Sirou s'annonce époustouflante, à la fois palpitante et poétique. Enfin, si seulement le présentateur de cette émission ne salit pas tout avec ses dérapages potaches comme la semaine dernière.
En ce moment, si vous êtes en direction de l'Ouest, par exemple, vous pouvez voir une lumière qui brille, c'est Vénus.
On peut les voir ?
Vénus, le soir, c'est très beau.
Mais il faut être équipé comme vous d'un énorme machin, enfin je veux dire d'un télescope. Embarquement à bord d'Apollo 13 avec Alain Sirou et j'essaierai de me taire juste après Zazie, après la pluie sur Europe.
Combien de Blandine, de Thibaut, de Fanny vont boire un café et puis sauter dans un jean, un métro, un taxi et sortir sans faire de bruit. Et sortir sans faire de bruit. Combien de Paul, de Pierre, de Mayan et d'Adji vont aller faire aujourd'hui la même chose qu'hier, ce qu'ils ont choisi. D'aller sauver des vies, c'est d'aller sauver des vies. Ils disent on masque nos peurs, on rassure, on sourit. Si dur parfois qu'on pleure aussi, on voit qu'on en meurt, on voit qu'on en guérit. Pas qu'on oublie le beau temps après la pluie. Que peut-on faire de mieux à Mulhouse, à Paris, que de boire un café et puis tuer le temps comme on peut. Parler à un ami, alors c'est vrai ce qu'on dit. Alors c'est vrai ce qu'on dit. Sur nos fausses colères, sur nos vaines envies, sur le temps qu'on perd à tromper l'ennui. Comme on s'est trompé, comme elle est belle la vie. Combien sont morts aujourd'hui. Combien sont morts aujourd'hui. Je pense à Blanc Clémentine, à Thibault, à Fanny. Comme ils sont beaux ceux qui bravent la nuit. Je pense à ce monde à faire, de ce monde meurtri. Il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie de faire le beau temps après la pluie.
Après la pluie, c'était Zazie sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, même lorsqu'on est confiné avec Eva Rock. Vous écoutez l'équipe est sauvage.
Enfin, ça va pas.
Deux heures d'une bataille rangée opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1. Leur but, vous informer bien sûr, mais surtout en ce moment, vous divertir. C'est pourquoi notre ultime concurrent du jour, notre consultant scientifique Alain Sirou, a choisi aujourd'hui une histoire hautement divertissante, celle de la mission Apollo 13 qui a failli virer à la catastrophe. Tout avait pourtant parfaitement commencé.
Vérification croisée du tout marche bien, navette.
Tout marche bien, navette.
Or, on sait comment ça a tourné.
Je voulais que vous sachiez, enfin, si on revient pas, comment ça on va parvenir.
Tout est pourri, navette.
Alain Sirou, que s'est-il passé à bord d'Apollo 13 et pourquoi ça a été le bordel quasiment autant que dans le film Indiqué pour l'espace?
Je vais commencer par vous faire écouter un document historique. C'est une voix qui nous arrive sur la Terre. Nous sommes à Houston, au Texas, le 14 avril 1970. Voilà, vous l'avez entendu.
Oui, Houston, we have a problem.
Houston, on a un problème. On a un problème. Alors qu'ils sont partis depuis deux jours, alors qu'ils sont à 320 000 km de la Terre, les trois astronautes d'Apollo 13 sont secoués par une vibration, une explosion, une déflagration qui va déchirer le flanc du vaisseau.
Donc, quand ils disent « on a un problème », c'est un euphémisme énorme, en fait.
Oui.
En fait, quand ils disent ça, ils ne savent pas très bien ce qui s'est passé.
D'accord.
Ils pensent peut-être même qu'ils ont été touchés par une météorite, et ils ignorent encore que c'est un court-circuit qui a fait exploser un réservoir d'oxygène liquide dans le module de service. Vous savez, le module de service, c'est comme la salle des machines. Vous avez l'eau, l'air, l'électricité, tout ce qui sert à la vie des hommes à bord, va tout d'un coup disparaître et ça va être une catastrophe totale sur le plan, je dirais, technique. Et puis surtout, ils sont en direction de la Lune, ils ne peuvent pas faire demi-tour.
Ah ben non. Et on fait comment pour les sauver? Ah oui, pardon.
Oui, c'est ça, le plan de sauvetage qui est mis en place pour sauver les astronautes à ce stade.
Oh, vous savez, alors, c'est extraordinaire parce que, d'abord, ça n'a jamais été prévu. Il n'a jamais été prévu qu'on puisse, je dirais, ramener des hommes dans un vaisseau aussi accidenté. Et la question, c'est plus du tout d'aller sur la Lune, hein, c'est fini. Ça, c'est vraiment le vrai défi, le nouveau défi, c'est finalement, c'est de rester en vie, c'est de ramener ces hommes-là à la maison. Alors, au début, c'est un peu la panique. Et le directeur du vol, Gene Kranz, dit « Bon, ok, on se calme. On a un problème à résoudre, alors on va pas l'aggraver par des approximations. » Et l'idée, parce que c'est ça qui est vraiment au cœur du sujet d'Apollo 13, c'est que Apollo, c'est un vaisseau qui est un train spatial composé de deux éléments. Le premier élément, c'est le vaisseau principal, là où sont les astronautes, et qui vient là, de subir une avarie absolument monstrueuse. Et accroché à ce deuxième vaisseau, il y a le module lunaire qui devait servir à descendre sur la Lune, vous voyez, comme une espèce d'ascenseur. Et lui, ce module lunaire,
il est
capable d'héberger deux hommes, il a une propulsion, il a l'électricité, ordinateur, il a un système de vie. C'est un confinement dans le confinement, c'est une bulle d'air. Et l'idée, c'est de l'utiliser comme un canot de sauvetage. Donc l'équipage va se réfugier dans le module lunaire, va contourner la Lune, allumer le moteur en direction de la Terre. Mais vous comprenez bien que pour réussir cela, eh bien, il faut que toutes les équipes à Houston se réunissent pour créer un nouveau plan de vol. Rassure les hommes, calcule à la seconde près l'impulsion qu'il faut donner pour filer en direction de la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui est une mobilisation générale sous l'œil des Américains et du monde entier.
Alors, ils vont miraculeusement s'en sortir. Est-ce que c'est un épisode qui a renforcé la NASA ou au contraire qui l'a affaibli ?
Alors c'est un épisode qui va renforcer la NASA parce que tout d'un coup vous avez trois hommes dans l'espace qu'il faut sauver. Trois hommes qui sont dans des conditions de vie épouvantables parce que ils vivent dans un espace qui est grand comme une cabine téléphonique. Mmh. Ils rationnent l'électricité. Vous savez, ils ont droit à 17 centilitres d'eau par jour. Il fait froid. Pour aller aux toilettes dans le module principal, il fait 3 degrés. Dans le LEM, il fait 12. Et ça va durer 4 jours.
Ah oui, quand même.
4 jours dans ces conditions. L'un des astronautes parlera en disant, vous savez, nous sommes comme des grenouilles dans un étang glacé. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ils vont s'en sortir, ils vont réussir à se poser sur la Terre et à amerrir pratiquement à 5 km du porte-avions qui les attendait. Et le patron de la mission, qui est Lowell, dira, vous savez, notre mission fut un échec, c'est très américain, mais j'aime à penser que ce fut un échec réussi.
Ah, c'est la classe.
Beau ouais. Message d'espoir signé Alain Sirou. Ce que Ron Howard avait raconté en 2 heures, il l'a fait en 5 minutes. Alain, vous êtes un pro. Et pour finir sur une note positive, je crois savoir que vous avez trouvé un arrangement financier finalement avec cette jeune stagiaire du CNRS qui avait déposé une main courante.
Je m'excuse auprès du CNRS, il n'y aura pas d'enquête.
Oh. Oh, tout est bien qui finit bien donc. À la bonne heure.
Europe 1.
S'arrêter, prendre le temps, regarder dans le rétro, c'était le concept d'une émission culte.
La chance aux chansons.
J'avais oublié.
C'est désormais le nôtre. Dans la séquence qui suit, chaque jour, on se replonge avec gourmandise dans les archives de l'équipée sauvage à la recherche de nos plus belles rencontres. Pour Axel de Tarlé, c'est indubitablement sa rencontre avec Jérôme Commandeur qui restera.
J'essaie de rendre sexy ma démonstration.
Mais vous êtes super sexy, Axel.
Mettez votre pantalon d'ailleurs, c'est filmé maintenant.
Dans un autre registre, coup de foudre, disons, plus romantique, nous reviendrons aujourd'hui sur celui survenu, unilatéralement hélas, entre Jeanne Chéral et moi. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Europe 1, radio ouverte. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Ce n'est pas forfanterie, je crois, que de dire que la plupart de nos invités ont aimé participer à l'équipée sauvage. Certains, comme Cadmerad, qui est pourtant déjà venu 2 fois, attendent la 3e avec impatience.
Je suis déjà tout dur.
Oh. Et il faut dire que parfois, pour certains artistes, et notamment certaines artistes, l'équipée sauvage est plus qu'une émission de radio, c'est un moment suspendu où dans la moiteur du studio Coluche, tout devenait possible, même le coup de foudre. La chanteuse Jeanne Chéral peut en témoigner.
Ah, mais ça me fait tellement plaisir que vous...
Ben, je sais pas, mais c'est... Enfin...
Que s'est-il passé après cette entrée en matière ?
Je vous propose
de le découvrir. J'étais éminemment ridicule. Jeanne Chéral était notre invitée le 11 septembre dernier. Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, c'est vrai, j'en fais pas mystère.
Ah, c'est vrai, vous êtes tout chaud.
Oui, je suis vraiment tout chaud. Je suis fan de vous. Bah, ça, c'est des choses qui arrivent, surtout depuis l'écoute de votre nouvel album, L'An 40. Très franchement, mais alors vraiment, avec la plus absolue sincérité, j'ai été scotché dès le premier titre, L'An 40. Pour démontrer à nos auditeurs le niveau de ce disque, je vous propose d'écouter l'intro du concert de Cologne de Keith Jarrett, un des plus grands pianistes du XXe siècle. Non, je vous propose, ami mélomane, d'écouter l'ouverture de l'album de Jeanne Chéral. Tout de suite, la réaction posthume de Jean-Pierre Marielle.
Ah non, de Dieu, de bordel de merde.
Eh oui, c'est beau, hein. Mais déjà, mais qui se permet une ouverture piano aussi longue dans un monde où tout le monde calibre les chansons 3 minutes pour la radio ? Ben oui, ben vous, Jeanne Chéral. C'est magnifique.
Ah, mais ça me fait tellement plaisir que vous... Ah,
ben, je sais pas.
Vous puissiez souligner ça, c'est... Non, franchement, ça me touche.
Mais c'est... Enfin, je suis désolé, en fait, je veux dire la vérité. Je savais même pas que Jeanne Chéral était pianiste à la base. Du coup, j'ai été complètement renversé par cet album parce que ce toucher, enfin, moi, ça m'évoquait Keith Jarrett, que j'adore.
Ouais, non, mais c'est une super belle référence.
Votre nouvel album s'intitule L'An 40, mais on s'en fout pas du tout, c'est un petit bijou, et à défaut d'être le fameux album de la maturité, c'est en tout cas celui d'un premier bilan. 40 ans, mais pas de carrière quand même, Jeanne.
Non, pas tout à fait. Non, mais j'ai bien 20 ans de carrière. Hein.
20 ans de carrière déjà.
Quand j'y pense, ça me fait flipper. Mais non, 40 ans, ouais, j'avais envie de célébrer en fait cet âge. J'ai écrit ce disque l'année de mes 40 ans, l'année dernière, donc j'ai 41, je bluffe un peu. Et cette année 2018, enfin, je l'ai vraiment traversée un peu en suspension, un peu en état de grâce. Quoi. Je me suis permise de prendre une semaine par mois pour écrire et j'ai adoré cet âge, j'ai adoré cet équilibre. Et 40 ans pour une femme, je trouve ça super.
Alors, vous êtes maman. Visiblement, ça ne vous empêche pas d'être femme à 100%. Vous êtes très sensuelle dans cet album. Il y a d'abord ces hanches qui roulent facile, naturel dans le titre L'an 40, et puis le titre 69, où là, on entre carrément dans l'érotisme. J'entends ton sang qui appelle mon sang, de ta langue à ma sève, nourris ton corps avec mon corps, que le festin s'achève. Ah, me boire à la source, je crois qu'il n'y a pas de meilleur mais pour toi. Ma question est simple, comment avez-vous accès comme ça au journal intime des Varocs ?
Allô, cochon !
Non mais vous qui êtes si pudique sur votre vie privée, vous n'hésitez pas à avoir une chanson comme ça. Ça n'a rien à voir, c'est l'art qui sublime tout. Quoi. On peut parler d'un 69 dans une chanson, il n'y a pas de problème.
Bah, moi je ne me mets aucun tabou en chanson. Hein. Franchement, c'est vraiment un avantage d'avoir un média comme ça, un mode d'expression. Disons qu'en chanson, je peux aborder des choses effectivement.
Que vous n'oseriez pas aborder dans la vie.
Bah non, ni dans la vie, ni en interview. mais c'est vrai, sur mon album précédent, je parlais du désir d'enfant. C'est pareil, c'est quelque chose de tellement... c'est la sphère de l'intime, quoi. Et puis là, ouais, une chanson érotique plus, comme cette chanson 69. Pour moi, j'ai aucun problème à l'écrire ni à la chanter. Après, bon, aborder un sujet comme ça entre 16h et 18h sur une grande antenne, peut-être pas.
Alors, jeune Cheryl, on peut aimer beaucoup de choses chez vous. On peut aimer votre voix, votre sens de la mélodie, votre toucher au piano. Mais non, je ne la drague pas, je la kiffe, c'est différent. Arrêtez. Au-delà du talent artistique, ce qu'on peut adorer chez vous aussi, c'est votre simplicité. Vous dites ainsi, par exemple, j'ai zéro tube et c'est une chance, je n'ai aucune obligation en concert. Ça, c'est vrai que c'est pratique.
Ah bah, j'essaie de tourner ça à mon avantage, forcément. Effectivement, j'ai pas de tube. Mais ouais, c'est vrai que je suis pas attachée à une chanson. Enfin, j'ai que des plus grands insuccès. Donc, quelque part, je peux les enchaîner.
Oui, mais enfin, ça, c'est une modestie. Vous avez aussi beaucoup de fans très fidèles.
Bah ça ouais, c'est la chance de pouvoir beaucoup tourner. Au bout d'un moment, on retrouve un peu des gens sur les concerts, à l'entrée des radios.
ils sont là,
c'est drôle.
Sur la pochette de cet album, vous apparaissez sans artifice, pas maquillé, en débardeur noir, un bras relevé. Alors, aisselle épilée ou pas, on ne sait pas parce qu'il y a deux versions qui circulent. Hein. Sur la pochette de l'album, c'est naturel. Et on a une version, il y a une veste.
Une veste ?
Oui.
Ouais, mais ça, c'est une version...
Une version peut-être pour le marché américain, je ne sais pas.
Peut-être pour les mormons. Non, j'ai une aisselle non épilée.
C'est vous qui avez décidé ça ou c'est
bien sûr, j'allais pas déléguer ce genre de choix.
Il faut y voir un message.
Le message, c'est vraiment que je me suis sentie tellement libre en faisant ce disque. Vous parliez tout à l'heure de mon intro piano. Qui se permet ça ? Et effectivement, je me suis sentie super libre et j'ai été au bout de ce sentiment-là, y compris sur l'image. Quoi. J'étais comme ça le jour de la photo, j'étais pas nickel. Et la beauté d'une femme, c'est ça aussi. C'est pas forcément être nickel, être bien maquillée, être super épilée. C'est important, je trouve, de dire ça aujourd'hui en plus, de sortir un petit peu de dictates qui sont censés s'imposer par la presse féminine. On est en train d'en sortir en ce moment, je trouve ça super. Et je trouvais important de célébrer ça aussi, de célébrer l'imperfection.
Europe 1.
Vous le répétiez à vos amis en boucle avant que l'épidémie nous tombe sur le coin de la gueule. Oh, moi, si j'avais plus de temps, j'adorerais cuisiner. Eh ben, du temps désormais, vous en avez. Plus question de se défiler. Surtout que chaque soir, Olivier Pouls, notre expert gastronomique, vous livre une recette facile, goûteuse et dépaysante. Aujourd'hui, il nous entraîne au Japon. À la découverte de la gastronomie nippone, loin des clichés. Pas vrai, Olivier? Vous m'avez promis, hein?
Patate levée, mitel, le tosa, les sauces aigre douce. Oh mon Dieu, c'est un délice. Oh, c'est un délice, les bénis.
Oui, délice in extremis arrive juste après Jane, comme sur Europe.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
C'était Jane sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Des journalistes tous confinés chez eux en région parisienne, dans des appartements exigus, sans accès à un quelconque espace vert, à la notable exception d'Olivier Pouls, dit le déserteur, qui à la première occasion s'est taillé en Bourgogne, sa maison de campagne, où depuis il se fait dorer les roustons au soleil peinard.
Elles seront croustillantes à l'extérieur, oui, bien parfumées à l'intérieur, oui, moelleuses.
Oui, mais épargnez-nous les détails de la texture. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, mais croyez-moi, c'était pas rigolo tous les jours. Hein.
De quoi ?
Même en campagne.
C'est-à-dire, quel est l'inconvénient ?
Bah, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas inviter ses voisins prendre l'apéro. On reste entre nous.
Non plus.
Il ne faut pas plaisanter avec ça. Hein.
Dites-moi, Olivier, cette semaine, c'est un tour du monde que vous nous proposez, un tour du monde des saveurs. Et aujourd'hui, direction le Japon.
Oui, à la demande de Anne Le Gall. Et je ne vous le ferai pas avec un accent chinois à deux balles, comme vous aimeriez me l'entendre dire. Pas du tout. Je vais le faire très sérieusement. Et je vais vous parler d'un plat japonais que j'adore. Alors, quand on parle Japon, il nous vient spontanément à l'idée les sushis, évidemment, que nous avons totalement dévoyés. Alors, ce qu'on peut en revanche faire chez soi, ce sont des ramen.
Oh !
Et les ramen, c'est une autre grande spécialité du Japon.
C'est ma passion.
Et c'est même une culture. Vous savez, il y a un film admirable qui s'appelle d'ailleurs « La saveur des ramen ». Quand vous avez un peu de temps, vous pouvez peut-être essayer de le trouver, qui est magnifique et qui va vous emmener dans cet univers. Et l'univers du ramen, c'est l'univers du bouillon. C'est l'univers de cette alchimie extrêmement complexe de faire infuser au départ dans de l'eau, alors de la viande, du poisson, des légumes, etc. Et donc, comme on est confiné, qu'on a pas forcément tout ce dont on rêverait d'avoir sous la main, on va improviser des ramen avec ce qu'on a dans le frigo. Et le point de départ, c'est le bouillon. Donc c'est de l'eau. Alors prenez, c'est important parce qu'il faut que la qualité de l'eau soit très bonne aussi, donc prenez plutôt de l'eau en bouteille que de l'eau du robinet qui dans certaines villes a un goût un peu javelisé. Donc n'hésitez pas, prenez de l'eau en bouteille. Et puis on va faire infuser. Alors qu'est-ce qu'on peut faire infuser? Ben une carcasse de poulet par exemple, ça c'est parfait pour démarrer le ramen. Si on n'a pas de carcasse de poulet, on peut le travailler simplement avec des légumes. On va récupérer tout ce qu'on a des fans de carottes, on peut récupérer quelques épluchures quand on a bien évidemment bien nettoyé les légumes. On peut prendre des petits restes de légumes, un verre de poireau, enfin tout ce qu'on a sous la main, des herbes, et on va laisser infuser ça tranquillement avec quelques épices, quelques graines de poivre. Ça doit cuire pendant une heure, deux heures, puis on réduit bien. Et dès qu'on a le goût qui nous plaît, quand on a cette saveur complexe, ben on va pouvoir l'agrémenter. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, ces fameuses nouilles chinoises ou japonaises qui sont faites pour les ramen. Si on ne les a pas, ben on va prendre des vermicelles, hein, ça va marcher très très bien aussi. Et puis on va détailler des petits morceaux de poulet, par exemple. On va rajouter un peu de sauce soja,
c'est très
important.
Quand vous dites détailler, ça ne veut pas dire qu'on les fixe du regard de manière persistante.
Non, pas du tout.
On doit vraiment avoir une action de les couper, voilà, c'est ça.
L'action de les couper très finement, de manière à ce que ça cuise très vite dans ce bouillon.
Oh.
On va rajouter un petit peu de coriandre si on a des petits oignons nouveaux, par exemple, ou des cébettes. Et puis un œuf qu'on aura préalablement cuit 6 minutes, de manière à ce qu'il soit entre mollet et presque un peu dur, hein, que le jaune garde un peu de consistance. Et on va mettre également cet œuf dans la ramen. Voilà, c'est un bouillon, on mange tout, le bouillon, les herbes, l'œuf. C'est vraiment délicieux, c'est facile à faire. Et puis surtout, c'est vraiment pratique parce que ça permet de l'élaborer en fonction de ce qu'on a dans son frigo.
Ça donne très envie. Ouais.
Mettre l'œuf dans le ramen, la contrepétrie est belle. C'était Olivier Pouls qu'on retrouve demain pour une nouvelle destination.
Quand
Olivier.
Vous en prie, hein.
Il a fait Eric dans la tour Montparnasse infernale. C'était son défi. Bien joué. C'était une autre époque, effectivement. Où est-ce que vous nous emmenez demain, mon cher Olivier?
Eh bien, on m'a demandé de faire un petit tour par l'Inde et j'ai l'impression qu'on va s'occuper du curry.
Ah, super.
Ah, très bien. Génial. À demain avec impatience. Merci, Olivier.
Europe 1.
Le proverbe dit que les grands esprits se rencontrent. C'est vrai, mais les autres aussi. Dans quelques secondes, nous saurons qui des quatre journalistes en compétition aujourd'hui sera élu chroniqueur du jour. Une ultime épreuve les attend, celle du quitte ou double. Ils auront 10 secondes pour défendre leur dossier. Nicolas Caro citera peut-être un grand philosophe, comme la dernière fois.
Une phrase formidable de Spinoza que j'ai oubliée, mais il avait raison.
A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Le moment fatidique est arrivé. Nous allons bientôt connaître le grand vainqueur de cette 29e équipée sauvage confinée. Alors bien sûr, nos journalistes continuent de se tirer la bourre chaque après-midi au service de votre culture G. Ils se battent pour la couronne de chroniqueur du jour. Mais au fond, comme dirait Nicolas Caro ou Patrick Sébastien après une soirée un peu olé olé aux chandelles...
C'était que de l'amour.
Oui, c'était que de l'amour. Mais il faut bien désigner un vainqueur, Nicolas. Mesdames et messieurs, l'heure est venue pour nos journalistes de vendre chèrement leur peau. C'est le quitte au double. Ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur dossier. Nicolas Caro, justement, pourquoi devrions-nous voter pour vous et votre Grand Maulne aujourd'hui?
Parce que grâce à moi, Mathieu, vous allez relire le Grand Maulne et vous allez passer 4 heures sublimes et replonger dans les souvenirs de votre adolescence, dans votre ambiance d'adolescence.
Encore faut-il avoir le Grand Maulne chez soi. Nicolas Caro, je vous rappelle qu'on ne peut pas sortir, les librairies sont fermées.
Certes, bon.
Alain Sirou, pourquoi voter pour vous et votre récit d'Apollo 13?
Parce que je vous ai rappelé l'histoire de ces hommes qui, il y a 50 ans, avaient visé la Lune, l'avaient raté, mais finalement, avaient quand même fini dans les étoiles.
Ah, c'est joli.
Et on va pouvoir en plus voir sur les plateformes vidéo à la demande, le film Apollo 13 de Ron Howard. Donc un point en plus pour vous, Javier. Frédéric Michel, pourquoi voter pour vous et votre jardin extraordinaire?
Bah, tout simplement parce que j'ai interrompu mes vacances et mon apéro de 16 heures pour vous offrir une petite balade dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings. Et je vais m'arrêter là parce qu'il va pleuvoir.
c'était bien tenté, Frédéric Michel. J'applaudis à votre audace. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous et le monde d'après?
Alors, on va quitter l'apéro, on va s'élever un petit peu et je vais vous dire que voilà, voter pour les artistes et les scientifiques qui essaient d'imaginer le monde d'après, eh bien c'est voter pour la réinvention, pour la créativité humaine. Donc ne votez pas pour moi, votez pour eux. Voilà, tout simplement.
Toujours votre légendaire humilité, Anne Le Gall. Eh bien, j'allais voter pour vous, mais comme il ne faut pas voter pour vous, vous l'avez dit vous-même, je vais voter pour Alain Sirou, qui m'a fait rêver avec cette histoire d'Apollo 13. Il faut dire que ça me passionne. Donc un point pour Alain Sirou. Eva?
Ah, moi, l'effet Madeleine de Proust a très bien. Madeleine de Proust a très bien fonctionné, donc un point pour Nicolas Caro et le Grand Maulne.
Yes, merci Eva.
Romain Causer, notre réalisateur, vote lui aussi. Qui avez-vous choisi aujourd'hui, Romain?
Alors Mathieu, je vais donner mon point à Fred Michel.
Oh là là, c'est partagé aujourd'hui.
Son jardin extraordinaire, mais ce sont les auditeurs qui vont tous vous départager. Eva, dévoilons le choix. Des auditeurs d'Europe.
Les auditeurs, ils ont voté en majorité pour Anne Le Gall, qui remporte les 2 points.
Et c'est Anne Le Gall qui vole la victoire. Effectivement,
oui.
Grâce au vote du public, c'était la 154e. Hop, je n'arrive pas à dire, il y a tellement eu de numéros de cette émission que je n'arrive plus à le dire. C'était la 154e journée de l'équipée sauvage. C'était dur à dire. Je remercie mes confinés du jour, Eva Rock, Anne Le Gall, Nicolas Caro, Frédéric Michel, Alain Sirou et Olivier Pouls. Romain Causer et Rémi Duprat en régie, évidemment. L'équipe est sauvage revient demain à 16h. Tout de suite, vous restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.